Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous et bienvenue dans Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Les matières premières jouent toujours un rôle clé dans les dynamiques économiques et commerciales ainsi que dans les relations entre États, qu'il s'agisse de matières premières agricoles, d'énergie ou de métaux. Concernant ces derniers, un siècle minier s'ouvre et la question qui se pose est de savoir où trouver tous les métaux dont nous allons avoir besoin, que ce soit pour la transition énergétique ou la transition numérique. La production mondiale actuelle est largement insuffisante. Selon la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, la somme des projets miniers prévus d'ici à 2030 est au minimum 10 fois moins élevée que les besoins. De plus, alors qu'une ruée sur les métaux s'amorce, le monde réalise l'emprise établie de la Chine qui exploite des mines sur son sol et à l'étranger, importe et raffine les minerais en métal avant de fabriquer une multitude d'équipements. Selon l'Institut de géologie des États-Unis, la Chine contrôlerait une trentaine sur la cinquantaine de métaux critiques. Un tiers environ des réserves mondiales pour l'ensemble des métaux serait concentré en Afrique. L'Afrique dont certains affirment qu'elle va diriger le monde en termes d'industrie minière. Pour cette édition en partenariat avec la revue internationale et stratégique dont le dernier numéro a pour titre « Matières premières, rareté, rivalité, dépassement », regard avec nos invités Romane Luc, analyste en stratégie internationale et spécialiste sur les enjeux maritimes. Bonjour.
Bonjour.
Émilie Normand, spécialiste des questions minières et co-autrice du rapport de l'AFD, l'Agence française de développement, intitulé « Le potentiel minier de l'Afrique, panorama, enjeux et défis ». Bonjour.
Bonjour.
Emmanuel H., adjoint scientifique à l'IFP Énergie Nouvelle et directeur de recherche à l'IRIS. Bonjour.
Bonjour.
Les métaux sont au cœur des transitions écologiques et numériques. La capacité de l'industrie minière ne peut, je le disais en introduction, répondre à la demande pour atteindre les objectifs climatiques fixés par la communauté internationale. À cela s'ajoute le numérique. Où en sommes-nous avec les métaux? Où va-t-on? Et est-ce que les trajectoires actuelles sont viables? Emmanuel H.
Alors, les métaux représentent toujours une part importante du commerce international. Dans le commerce global de matières premières, qui représente environ 31% du commerce international, on a un segment des métaux qui a connu une croissance assez fulgurante depuis le début des années 2000. La taille des marchés a été multipliée par quasiment 8. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a des besoins, notamment qui sont tirés par la transition bas carbone. On estime qu'à l'horizon 2040, on devrait avoir une multiplication par 2 du marché du cuivre, une multiplication par environ 3 du marché du nickel. On a un x10 quasiment sur le marché du lithium et on va avoir un x2,5 sur le marché du cobalt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde va extraire davantage, alors qu'on a déjà extrait, j'allais dire, beaucoup plus sur la période 2000-2020 que sur la période 1970-2000. C'est-à-dire qu'on rentre dans un nouveau monde qui va être tiré notamment par ces questions-là. Et donc, ça veut dire que potentiellement, les métaux, les minerais vont se retrouver au cœur de la géopolitique. Pourquoi? Parce que tout simplement, les métaux ont la particularité d'avoir une chaîne de valeur qui est très longue, de l'extraction jusqu'au raffinage, jusqu'à l'introduction de ces métaux dans des technologies. Et donc, cette chaîne de valeur qui est très longue fait qu'on va avoir des multiples acteurs. Vous avez parlé de la Chine, notamment sur le raffinage. Effectivement, la Chine raffine environ 70%, par exemple, des composants d'une batterie. Et donc, ça va donner un pouvoir de marché assez important à ces pays, que ce soit au niveau de l'extraction ou au niveau du raffinage.
Alors, on va développer un petit peu tout ça. Je ne sais pas si l'une ou l'autre, vous souhaitez réagir à peut-être compléter ce que vient de dire Emmanuel H, Émilie Normand.
L'exposition est déjà très complète, mais oui, tout à fait. On entre dans une ère métallique avec des technologies qui consomment toujours plus de métaux dans des quantités toujours plus difficiles aussi à traiter dans un second temps. Ça pose aussi la question du recyclage après de ce qu'on fait de cette quantité de matière, puisque il y a non seulement la question des minerais qu'on va effectivement utiliser dans les technologies, mais il faut aussi ne pas perdre de vue que derrière cette matière extraite, il se cache aussi une énorme quantité de matière qui est en fait le déchet métallique, puisque On a, enfin, entre le minerai qu'on va extraire de la mine et le métal fini, comme l'a dit Emmanuel, il y a une longue chaîne de valeur, une longue chaîne de raffinage, de traitement, de préparation de métaux qui seront utilisés dans les produits finaux. Et donc, on a aussi de la perte de matière là-dessus. Donc, il ne faut pas oublier aussi ces enjeux-là.
Romane Luc, sur ces questions, non. Alors, je poursuis et je me tourne vers vous, Emmanuel H. Le Fonds monétaire international alerte depuis 2023 sur un risque de fragmentation géographique qui stopperait la poursuite du processus de mondialisation tel que nous le connaissons. De quoi parle-t-on exactement ?
Alors effectivement, en 2023, le FMI a commencé à parler de géofragmentation, mais à mon sens, il faut prendre un tout petit peu de hauteur par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que c'est plus une accélération d'un mouvement qui a commencé au début des années 2000. Je m'explique. Au début des années 2000, notamment sur les segments énergétiques comme le pétrole et le gaz, on a eu une résurgence de ce qu'on a appelé le nationalisme des ressources. Le nationalisme des ressources, c'était que les pays souhaitaient tirer davantage de revenus, de la rente des hydrocarbures pétroliers et gaziers. Et on a eu un nationalisme en Russie, au Venezuela, par exemple, en Iran. Mais ce nationalisme, il était, j'allais dire, concentré sur certains pays qui, pour la plupart, étaient mis au banc de la communauté internationale. La première rupture, j'allais dire géographique, c'est la crise des terres rares en 2009, où on commence à avoir un pays, la Chine, qui contrôle un secteur, le secteur des terres rares, avec environ 80% de la production, 90% du raffinage, et qui va commencer à opposer des blocs. La Chine contre les pays occidentaux, le Japon et les États-Unis notamment. Alors, au départ, c'est une restriction. C'est Pékin qui demande à ses entreprises de limiter les exportations ou qui donne moins de licences d'exportation à ses entreprises. À cette époque-là, on parle pas, il n'y a pas de pénurie. Hein, c'est un signal qui est envoyé sur le marché. 2020, la crise Covid, et là, on a une accélération. Accélération, pourquoi ? Parce que tout simplement, on a, moi, ce que j'appelle le syndrome d'Oliprane, c'est-à-dire, on voit que finalement, on ne produit plus, notamment dans les pays occidentaux, les produits dont on a besoin. Et là, on commence à voir que, oui, effectivement, les chaînes de valeur éclatées, comme ça, c'est quelque chose qui, finalement, fragilise les économies consommatrices. Et donc, on se retrouve dans un monde où, potentiellement, on voit que on a des pays qui se rapprochent, on a un axe sino-russe qui est en train de se dessiner. On se pose la question des pays occidentaux qui aussi essayent de faire des partenariats. Et donc, la géofragmentation, c'est ça. C'est l'observation que finalement, on a des blocs qui semblent se reconstituer. Alors, ils sont multiples, ces blocs. Hein. Ce n'est pas que des blocs, je parlais de blocs sino-russes, mais on a aussi un bloc potentiel des BRICS et des BRICS Plus, qui potentiellement ont un poids très, très important sur les marchés de matières premières. Donc, c'est ça, la géofragmentation. Mais c'est un processus qui, à mon sens, date depuis une vingtaine d'années, mais qui s'est accéléré. Et je donne un dernier chiffre. Entre 2009 et 2020, les matériaux dans le commerce international, les biens qui ont fait l'objet de plus de restrictions, ce sont les métaux critiques. Mmh. Et les pays qui ont le plus fait de restrictions, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est l'Argentine et c'est l'Inde.
Mmh. Alors, juste une précision de vocabulaire. Vous avez parlé de crise des terres rares et métaux critiques. Quelle différence, pardon, mais c'est une question de néophyte.
Alors, les métaux critiques, c'est un ensemble de métaux qui sont considérés comme critiques, c'est-à-dire qu'on fait des listes de métaux critiques. Dedans, on va essayer d'estimer l'importance économique ou le risque de restriction, par exemple, d'un métal. Les terres rares, ce sont 17 éléments. 17 éléments, l'yttrium, le scandium, plus ce qu'on appelle les lanthanides. C'est les éléments qui sont tout en bas, en fait, du tableau périodique des éléments. Moi, je les appelle les métaux en ium. Hein, dedans, vous allez trouver lithium, le lutétium, le promécium. Non, le lithium n'est pas une terre rare. Okay. Le lithium est un matériau critique, mais n'est pas une terre rare.
Donc, il y a quelques exceptions. Oui. Et je reprends ce que vous dites sur la question des restrictions, qui est quelque chose, effectivement, d'assez intéressant. D'après l'OCDE, rapport de 2023, les minerais et métaux nécessaires à la transition bas carbone étaient parmi l'ensemble des biens échangés, ceux qui faisaient l'objet des restrictions les plus importantes en 2010 et 2019. Et vous avez cité un certain nombre d'exemples, Chili, Argentine, Indonésie. Ce qui est intéressant, et je vous laisse me dire, Émilie Normand et Romane Luc, si vous souhaitez intervenir, à travers tout cela, c'est là aussi, Emmanuel H., c'est un retour des États. C'est-à-dire que pour les matières premières agricoles, l'État n'est jamais très loin non plus, de même que pour le gaz et le pétrole, c'est la même chose. Mais là, c'est un retour plus affirmé des États en raison de la non-disponibilité ou en tout cas d'une réorganisation de tout ça. C'est ça l'élément important ?
C'est l'élément fondamental parce qu'on parle même de nouvel interventionnisme et certains parlent même de nouveau consensus de Washington. Un consensus de Washington des années 1980 où on était dans une économie libérale avec les plans d'ajustement structurel où là justement on voulait moins d'État. Depuis le milieu des années 2010, on a un retour de l'État, État notamment qui doit assurer l'approvisionnement à la fois en énergie et en matériaux et en métaux critiques.
Parce que l'interventionnisme devient la norme, la sécurisation de l'économie la priorité. Quelles peuvent être les conséquences de cette fragmentation géographique, de cette reconstitution des blocs que vous évoquiez précédemment, Emmanuel H. Je pense notamment aux questions de sécurité alimentaire.
Si vous voulez, il y a deux conséquences. La première conséquence, à mon sens, c'est le fait que, vu que vous avez des blocs, vous n'avez plus une optimisation, j'allais dire, à la fois des routes, et je pense que Roman pourra en parler, et vous n'avez potentiellement pas la continuité des chaînes de valeur. Ça veut dire que ça va se ressentir à un moment sur les prix. Et ça veut dire que potentiellement, des biens qui étaient produits à un coût particulier vont augmenter. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut potentiellement le coût de la transition, notamment. Si vous dites que les métaux rentrent dans des technologies qui elles-mêmes vont favoriser la décarbonation, le coût de la transition va augmenter. Donc ça, c'est très important. Après, bien évidemment, les matières premières alimentaires, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que on l'a déjà, la géofragmentation sur les marchés de matières premières alimentaires. Lorsque vous avez la guerre en Ukraine et lorsque vous avez les flux, notamment de matières premières qui passent par la mer Noire, qui vont être perturbés, vous avez ces blocs qui se forment. Vous les avez aussi sur les marchés de matières premières énergétiques. Lorsque les flux qui allaient vers l'Ouest vont maintenant vers l'Est à des prix qui sont différents de ce qu'ils étaient avant, vous l'avez déjà, cette géofragmentation. Donc elle a des conséquences en termes de prix, elle a des conséquences aussi, j'allais dire, dans l'appréciation de la géopolitique. Pourquoi ? Parce que maintenant, on ne commerce plus forcément en fonction d'un intérêt économique, mais d'amitié ou d'alliances supposées entre des États. C'est-à-dire qu'on rentre dans le règne de moi ce que j'appelle un peu la diplomatie au jour le jour ou la diplomatie de salon. C'est-à-dire que, en gros, un jour, vous allez être ami avec une puissance et donc vous allez rentrer dans des relations de commerce et le lendemain, potentiellement, vous allez pouvoir changer. Et donc, vous allez avoir aussi dans cette diplomatie ce qu'on appelle des multi-alignés. L'Inde, par exemple, est tout à fait capable d'échanger avec les États-Unis, mais aussi d'acheter du pétrole et du gaz russe à des prix qui défient toute concurrence. Donc vous voyez, le monde tel qu'on le connaissait avant n'existe plus et les matières premières sont en train de le reforger.
Pour un bien ou pour un mal, c'est tout à fait intéressant. En tout cas, vous avez la réponse ?
Non, j'ai pas la réponse. Et puis je vais laisser aussi. Bien sûr. Je pense que les partenaires en parler.
Vous avez passé le flambeau à Roman Luc sur la question de l'optimisation des routes, qui est importante dans la mesure où il y a liberté de circulation, etc. Cette fragmentation va faire que effectivement les routes ne seront plus optimisées comme elles l'étaient jusqu'à présent. Et j'ai une question aussi, la lubie de Donald Trump sur le canal de Panama, qu'est-ce que vous avez à nous en dire, Roman Luc ?
Oui, alors plusieurs éléments. Au niveau des routes en elles-mêmes, donc au niveau du transport maritime, c'est 80% du commerce mondial en volume. Donc la mer est une infrastructure majeure en fait de l'économie mondiale. Et les routes principales vont aller des pôles de production vers les pôles de transformation, puis vers les pôles de consommation. Et on a sur ces routes des points de passage stratégiques, donc des détroits ou des canaux qui relient les espaces entre eux et qui vont être à la fois des leviers de puissance pour certains États, mais aussi concentrer beaucoup de vulnérabilité. Et donc, on parlait du retour des États tout à l'heure. On va avoir, par exemple, une volonté de sécurisation de ces endroits avec une militarisation aux abords des détroits, donc un rôle accru des marines sur la sécurisation des approvisionnements. On peut penser par exemple à des coopération maritime, coopération navale internationale qui sont mises en place au niveau du golfe d'Aden, donc près des détroits d'Ormuz et de Bab el-Mandeb, pour sécuriser les approvisionnements, par exemple, en ce qui concerne la piraterie. On va avoir également de plus en plus de bases militaires internationales près de ces points de passage, par exemple avec Djibouti, où on a des bases militaires américaines, françaises ou plus récemment chinoises. Au niveau de l'intérêt stratégique de ces points de passage, ils vont conférer à la fois aux États qui les contrôlent, mais aussi aux acteurs qui bénéficient d'une proximité géographique avec eux, une capacité de contrôle et de nuisance, qui vont être des outils assez intéressants donc, d'un point de vue géopolitique et économique. Et c'est pour ça, donc, pour en venir à Donald Trump, qu'on a un intérêt renforcé. Donc, il a déclaré en décembre 2024, et là en janvier, à plusieurs reprises, qu'il voulait reprendre le contrôle du canal de Panama, justement dans un premier temps parce que le canal du Panama est un point de passage stratégique qui relie deux océans et qui permet de réduire les temps et les coûts de transport de manière assez importante. Le canal du Panama, c'est 5% du trafic maritime mondial et surtout, il y a 75% des marchandises qui transitent par le canal du Panama qui sont en lien avec l'économie américaine. Donc c'est crucial pour les États-Unis. Et donc on a une volonté de Donald Trump de reprendre le contrôle, comme il le dit. Il dit que c'est une décision insensée d'avoir rétrocédé le canal au Panama en 99. Et un soupçon de sa part qui est affirmé d'une influence chinoise au niveau du canal. Et donc c'est sur ça qu'il se base pour justement revendiquer un contrôle potentiel du canal.
Alors ce qu'on peut imaginer aussi, c'est que la politique migratoire de Donald Trump vis-à-vis des populations d'Amérique centrale pouvait ne pas réjouir beaucoup le Panama, parce que des Panaméens sont également concernés, et parce que libre circulation pour les bateaux américains, c'est sans problème dans le canal de Panama, mais qu'en mesure de rétorsion, le Panama aurait pu décider je ne sais quoi, mais en tout cas, voilà, ça peut peut-être faire partie des éléments de réflexion de Donald Trump. Ce que je retiens de ce que vous nous avez dit, Romain Luc, c'est finalement, aujourd'hui, ça c'est un élément nouveau, c'est la fragilité de la circulation maritime.
Il y a effectivement une forme de fragilité, et notamment au niveau de ces points de passage stratégiques, parce qu'ils sont donc, ils peuvent être victimes de plusieurs types de vulnérabilités sécuritaires dans un premier temps, avec par exemple la piraterie que j'évoquais, ou plus récemment les attaques outils en mer Rouge, qui ont un impact assez important sur le commerce international, parce qu'ils vont forcer les armateurs à vouloir éviter la mer Rouge et donc ne pas passer au travers du détroit de Bab el-Mandeb et du canal de Suez, en contournant le continent africain via le cap de Bonne-Espérance. Donc ça a un impact assez important à la fois sur les temps et les coûts du transport maritime. Au-delà des vulnérabilités sécuritaires, il peut y avoir des vulnérabilités climatiques environnementales. Ça a été le cas l'année dernière également au niveau du canal de Panama, cette fois, parce qu'il y a une sécheresse assez importante en lien avec le phénomène El Niño qui a fait que le trafic a dû être réduit, il me semble, d'environ 40% par rapport à son pic historique. C'est énorme. Et en plus, on a eu donc une réduction du trafic via le canal de Suez et le canal de Panama qui sont intervenus en fait au même moment, donc sur l'année 2024. Et au-delà de ces vulnérabilités-là, il peut également y avoir des vulnérabilités logistiques. Donc là, on peut penser à l'Ever Given en 2021 qui s'était échoué en travers
du canal de Suez et qui a bloqué la circulation du canal pendant semaines.
Pendant 6 jours, oui.
Et a eu un impact sur la fluidité du commerce assez important.
Complètement.
Romain Luc, on vous retrouve avec Émilie Normand et Emmanuel H. après le journal. À tout de suite.
Vous souhaitez réécouter Géopolitique ? Rendez-vous sur RFI.fr.